Vous écoutez
RMC. RMC, l'after foot en direct de Casablanca.
Bon, on attaque pour Brahim Diaz qui va pouvoir décaler Raimi et c'est le 3-0, le troisième but pour le Maroc et le Maroc continue à écrire l'histoire du continent africain. Pour la deuxième fois, le Maroc sera dans le top 8 des meilleures équipes du monde.
Karine Galli. Nous sommes en Afrique, nous sommes à Casablanca. On vous fait vivre le meilleur du football féminin et masculin. Vous le savez qu'actuellement, il y a la CAN 2026 pour les femmes qui se jouent. C'est du 26 juillet au 16 août avec actuellement la première journée de la compétition. Et déjà, le Maroc qui a cartonné pour son match d'ouverture, on le rappelle, avec un succès 4-0 face au Kenya. Toujours à mes côtés, notre invité Nassim El Khelaifi, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains. Et on accueille de nouveaux invités. Nous accueillons Rita Mizdi, qui est créatrice de contenu et médecin. Et ça, c'est un combo assez incroyable. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous tous.
Eh bien, on va vous découvrir dans quelques minutes, évidemment, plus en détail. Et à vos côtés, nous avons Ayoub Logi, qui est créateur de contenu sur le foot et sur la culture marocaine. Bonsoir Ayoub.
Bonsoir, merci pour la présentation aussi. C'est un plaisir d'être avec vous.
On est ravis de vous accueillir sur RMC. Vous étiez tous les deux présents à la Coupe du Monde 2026 qui vient de se terminer. On est en train de faire le bilan des nations africaines et notamment du Maroc. On a entendu Marouane Chamakh il y a quelques minutes qui était notre invité sur RMC. On va continuer d'en parler. Nassim, quel est votre regard sur les nations africaines? On le rappelle, le Maroc, une nouvelle fois, donc meilleure nation africaine. Ça s'est arrêté face à la France en quart de finale avec cette défaite 2-0. Il y a eu aussi des coups de cœur, évidemment. Je pense au Cap-Vert, l'Égypte qui est passée tout près d'un exploit face à l'Argentine qui était les champions du monde 2022. Est-ce que l'Afrique, dans sa globalité, a réussi sa Coupe du Monde?
Oh, il y avait un constat à faire parce que quand on a eu les 10 places ou bien les 9 places et demie, entre guillemets, ça avait fait parler. Fallait fermer des bouches, fallait être prêt à se donner à 100% sur le terrain et fallait se qualifier au moins, voir les moitiés sortir des groupes. Finalement, on a fait quasiment un carton plein.
Le gros raté, c'est la Tunisie.
Ouais, c'était. Enfin, on le sentait venir dès le début.
C'est pas une surprise parce qu'il y avait beaucoup de soucis.
Mais quand même, on s'attendait à ce que la Tunisie fasse un peu mieux que son zéro pointé. Bref, on est passé à 9 sur 10. Avec une bonne Tunisie, une moyenne Tunisie, on serait à 10 sur 10. Maintenant, pour passer l'autre palier, il fallait du travail, une autre mentalité. Je pense que l'équipe nationale est débarquée en Coupe du Monde avec un plafond de verre déjà brisé. C'est-à-dire au Qatar, on a vaincu des grands, donc on avait un plafond de verre qu'on avait éclaté quasiment, même par rapport aux équipes africaines. Donc on est arrivé en regardant les grands dans les yeux. Faut rappeler qu'en 16e, on a tiré les Pays-Bas en sortant d'un groupe 2e derrière le Brésil. Donc faut le faire.
C'était vraiment un tirage très dur parce que la phase de groupe était dure et derrière tu fais une bonne phase de qualification et t'as droit aux Pays-Bas qui étaient une grosse nation.
C'était le seul choc entre deux top 10 des nations dans les classements FIFA. Donc faut dire que c'était le choc des 16e. On les regarde droit dans les yeux encore, on n'a pas peur, même on les oblige à changer leur système de jeu. Monsieur Coman, il a mis sa défense à 5, il avait peur de. Il a dit que si on l'avait joué à 4, on ne serait même pas arrivé en prolongation. C'est flatteur, c'est bien. Après, on tire le Canada pays hôte qui joue avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, ça ne suffisait pas. On a montré qu'on était une grande équipe, car même en difficulté face au Canada, faut le dire que la première mi-temps c'était compliqué d'arriver à tenir. On a quand même gagné ce match 3-0 comme une grande équipe aurait pu le faire. Donc c'était parfait. C'était pour moi le trajet parfait. Après tu tombes contre la France c'est Avengers en quart de finale et tu fais pas le poids. Mais globalement, pour moi, l'Afrique a répondu présente. Ça m'a fait vraiment plaisir, moi, en tant que fervent défenseur du football africain. Et je dis qu'on a toujours mérité plus de place. Aujourd'hui, on l'a. Mais on a quand même du chemin à faire pour, pourquoi pas, avoir 2-3 équipes en quart de finale et aller titiller ces clubs européens qui dominent.
Est-ce qu'il n'y a pas des déceptions quand on voit les scénarios? L'Égypte, même 2-0 à la 79e minute, il continue l'aventure. Et puis finalement.
Le Sénégal.
Voilà, et j'allais dire, le Sénégal, c'est la même chose, ça c'est face à la Belgique, mais l'Égypte et le Sénégal sont passés par toutes les émotions, mais malheureusement, elles ont été sorties alors que ces deux nations avaient le match en main.
Il y avait le match en main. Il y a eu cette histoire aussi du Cap-Vert qui revient à chaque fois et qui vit toutes les émotions dans ce match exceptionnel face à l'Argentine de Lionel Messi, etc.
Le Cap-Vert a poussé les champions du monde en titre au moment où le match se joue en prolongation. Ce match est dingue, ce 3-2 est fou.
3-2, il revient, le but exceptionnel du latéral gauche. Et tout. On a vécu un scénario de film. Mais ce qui manque aujourd'hui, encore une fois, c'est cette concentration, cette envie de bien faire. Parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport au plafond de verre en 2022, Walid Regragui a eu une conférence de presse qui est pour moi historique, qui doit rester dans l'histoire du football africain. C'est qu'il dit qu'on en a marre de passer pour ces valeurs africains qui viennent, qui jouent, qui méritaient mieux, mais qui ont perdu le match. Maintenant, faut savoir les gagner, ces matchs qu'on perdait comme ça. Et je l'ai vu face au Canada, justement. Il y a quelques années, le Maroc aurait été dans le rôle du Canada. Ce vaillant qui joue au mi-temps face à un grand gardien mais qui n'y arrive pas et qui prend quand même 3-0, je pense que le Maroc aurait été à la place du Canada et on serait sorti sous les applaudissements, on aurait été content d'avoir atteint ce stade-là. Aujourd'hui, moi j'ai vu des Marocains qui étaient déçus de faire quart de finale et de perdre de cette manière-là sans se battre contre la France. Ça montre à quel point les mentalités sont en train de changer, c'est tant mieux, mais ça doit encore le faire en Afrique, ça doit encore savoir se contenter de ce qu'on a et tirer les matchs compliqués jusqu'au bout. L'Égypte typiquement qui gagne 2-0, il reste 10 minutes à jouer, tu en prends deux coups sur coup, et sur le troisième but argentin, t'es à 2-2. Tu as 2-2, tu vas chercher la victoire au lieu d'attendre peut-être les traînements en prolongation parce que tu as un gardien qui fait un match exceptionnel, qui était chaud. Peut-être qu'au pénalty, tu aurais pu gagner. Non, tu choisis d'aller chercher ce troisième pour réécrire l'histoire. Et j'ai l'impression que les Argentins l'avaient fait exprès, de les attirer un peu, de les aspirer. Ils sont tombés dans le piège. On tombe encore dans des pièges comme ça, des actions qu'on comprend pas. J'ai encore l'action de Sadio Mané contre la Belgique, quand il mène 2-0 pour tuer le match. Il y a une prise de décision bizarre. Après, je crois encore une fois deux buts coup sur coup. C'est des leçons qu'on a vécues tout le temps en tant qu'Africain en Coupe du Monde. On se souvient de la transversale de Gianna Samoa sur le fameux pénalty de Suarez. On se souvient de tout ça, mais on s'entête à refaire les mêmes erreurs maintenant. Pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aussi en Afrique, on rappelle, je pense qu'on aura plus de nations africaines en huitième que cette fois-ci, parce que j'espère qu'on aura tiré une leçon, et surtout parce que le vivier est là. Les top 50 des meilleurs jeunes joueurs du monde, il y a beaucoup d'Africains qui arrivent en force et qui choisissent justement de représenter leur pays d'origine, et celui d'origine, c'est pas de leur part.
Rita, je me tourne vers vous parce que vous êtes une chanceuse. Vous avez eu le bonheur d'aller à la Coupe du Monde, vous revenez des États-Unis et vous étiez notamment dans le stade lors de ce 3-0 que Nassim vient de nous raconter. Vous avez vu la victoire du Maroc donc face au Canada 3-0. Racontez-nous cette Coupe du Monde, comment vous l'avez vécue et est-ce que vous trouvez que c'est une Coupe du Monde réussie pour les Lions de l'Atlas ?
Alors, cette Coupe du Monde, elle est un peu particulière parce qu'à chaque fois que le Maroc joue une grande compétition, j'ai quelque chose qui m'empêche d'y aller. Je ne suis pas allée au Qatar, je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire par le travail et les études. Et cette fois-ci aussi, j'avais des raisons un peu personnelles de ne pas y aller depuis le début. Et donc, j'étais un peu frustrée. Et je suivais la compétition depuis le Maroc, de loin, et je regardais à peu près tous les matchs de la Coupe du Monde, pas seulement ceux du Maroc. Et j'étais un peu... je marchais un peu sur les œufs parce que je trouvais qu'on avait toujours le problème du banc de touche qui va revenir. Et je sentais qu'il allait avoir un problème en rapport avec le banc de touche, malheureusement. Et puis, je me suis dit, si je ne vais pas au match du Canada, peut-être que je n'aurai pas la chance après de pouvoir assister encore à une victoire. Et donc, je prends la décision du jour au lendemain d'aller au match Maroc-Canada à Houston, et j'ai pas été déçue parce que c'était un match incroyable, une ambiance incroyable. Le terrain était rempli, disons, à moitié par des Marocains et l'autre moitié c'était des Mexicains qui venaient encourager les Marocains, et donc on était dans une ambiance de folie, de dingue, et pour parler de l'ambiance un peu mieux que moi, on est toujours fier du jeu marocain et de voir l'équipe marocaine gagner. Et bien sûr, je fais aussi partie des gens déçus de la défaite du Maroc en quart de finale, même si on sait que ça reste le quart de finale de la Coupe du Monde. Mais maintenant, disons qu'on est plus content d'avoir participé, on est plus content quand on va très loin. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est ça mon bilan pour cette Coupe du Monde.
Ayoub, vous êtes créateur de contenu également. Vous étiez donc présent également sur site. Vous avez vécu cette Coupe du Monde 2026. Racontez-nous votre Coupe du Monde. Et est-ce que le Maroc a été à la hauteur des attentes qui étaient évidemment fortes parce qu'il y avait eu 2022, parce qu'il y avait eu cette CAN ici même avec cette finale. Et donc forcément, le Maroc était très attendu.
Je pense que le Maroc a bien réussi sa Coupe du Monde, même si on a été disqualifié en quart de finale, mais quand même, ils ont fait un très beau jeu. Comme on a tous évoqué, on a joué contre trois équipes de top 10 jusqu'au quart de finale. On a joué contre le Brésil, on a joué contre les Pays-Bas, et après on a eu la France. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a fait le même parcours que le Maroc a fait. Et autant que supporter qui était sur place, ben, on s'est trop déplacé. On en a fait presque 7000 km avec l'avion. Donc, on passait d'une ville à une autre. Ça fait de la fatigue pour nous. On n'imagine même pas les joueurs qui couraient pendant 90 minutes, voire 120 minutes à chaque match et pour pouvoir reprendre encore, sachant que les autres équipes ne se sont pas trop déplacées. On va parler par exemple de la France qui a fait, je pense, 1000 km.
La France a eu effectivement la chance de jouer énormément de matchs à proximité et tous sur la côte Est. Donc effectivement, il y a eu peu de kilomètres.
Et le jour qu'ils se sont déplacés, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc...
quand ils sont partis à Dallas, là c'était trop loin. Voilà.
C'est ça.
Dallas, c'était la limite.
Donc pour nous, c'était un peu compliqué. Et sachant qu'avec ça, tu as les blessures qui sont arrivées. Donc. Pour nous, c'est tout à fait compréhensible d'être éliminé en quart de finale. On a fait un back-to-back encore. Quart de finale contre la France, encore malheureusement 1-2-0. Mais on a gagné plein d'autres choses à côté. On a rencontré énormément de gens. Le Maroc a quand même laissé son empreinte. Encore cette fois-ci, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis, on voyait plusieurs Mexicains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir. On voyait plusieurs Américains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir dans le stade. Donc, dans le foot, il y a le trophée, il y a un autre trophée qui est plus humain, qu'on a gagné auprès de ces deux communautés. Et donc ça nous fait plaisir. Pour une personne qui était là-bas, on voyait plein de gens qui venaient nous voir. Oh, Morocco, are you from Morocco? That's nice. Du coup, ils échangeaient avec nous. Alors que je pense, si on revenait il y a 10 ans, personne n'aurait fait la même chose pendant une Coupe du Monde.
Le regard a évolué.
Exactement.
Donc, le joueur africain à ressortir de cette CAN 2026?
Bono.
Ah oui, donc il est forcément marocain pour vous.
Bono, il a fait une très grande compétition.
Le gardien de but donc des Lions de l'Atlas, pour vous, c'est le joueur à sortir africain.
Bah, il a fait des arrêts qui n'ont jamais été faits auparavant. Et c'était pas de la chance parce qu'il l'a fait en CAN, il l'a refait encore ici en Coupe du Monde. Donc Bono, parce qu'on valorise toujours les attaquants et les milieux.
Non, certains auraient pu dire Vosinha, le gardien du Cap-Vert, par exemple.
Pour la belle histoire aussi.
Que souvent, évidemment, les gardiens ou les défenseurs sont pas forcément mis en avant. Rita, pour vous, le joueur à mettre en avant.
Bono, bien sûr, comme représentant du Maroc, mais aussi. J'ai toute l'équipe du Cap-Vert qui a montré un mental d'acier. C'était peut-être une équipe dont plusieurs se moquaient aussi au début. Ils disaient, bon, c'est une Coupe du Monde à 48.
Il y avait une inconnue. C'était leur première participation.
Coupe du Monde à 48 équipes. Voilà, c'est ce genre d'équipe qu'on va commencer à avoir en Coupe du Monde, etc. Ils ont montré un mental d'acier, surtout leur match impressionnant contre l'Argentine. Et je dirais vraiment chapeau, je tire mon chapeau à toute l'équipe du Cap-Vert qui, j'espère, va continuer sur cette lancée aussi.
Nassim, personne ne dit Ismaël Saïbari le meilleur buteur du Maroc lors de cette Coupe du Monde.
Dire Saïbari parce que Bono, oui, bien sûr, c'est pour moi une légende absolue du football marocain, le meilleur gardien d'histoire peut-être de ce continent-là, surtout en Coupe du Monde. Ce qu'il réalise sur deux compétitions exceptionnelles, mais Saïbari, l'effort qu'il fait, qu'il fait pour arriver fit à cette Coupe du Monde, les gens ils savent pas.
Pressing.
Mais au-delà, c'est Saïbari, il était enfin un peu de surpoids avant qu'il arrive au stage, parce qu'il faut savoir que Wahbi a organisé un stage élargi. Avec une liste élargie pour pouvoir retravailler justement avec deux équipes complètes, y compris Saïbari qui était venu, même s'il était quasiment sûr d'être convoqué, mais il avait des choses à prouver dans ce poste de faux neuf qu'il lui a créé, qui on semblait que ça lui allait comme un gant, mais il devait faire un effort. Il a perdu pas mal de poids, il a gagné en explosivité, il a compris un peu ce que Wahbi demandait de lui pour arriver à cette Coupe du Monde capable de jouer sans ballon, jouer dos au but beaucoup plus plus que ce qu'il a l'habitude de faire au PSV, alors que au PSV il arrive, il se projette, il est déjà dans le carré. Là, on lui a demandé de beaucoup jouer au but, de dézoner, on lui a demandé beaucoup de boulot. Il arrive quand même à planter des buts importants à chaque fois qu'il en a l'occasion. Pour moi, c'est la star de cette équipe nationale version Wabi, il le sera. Malheureusement, il nous a beaucoup manqué contre la France. On l'a vu dans le jeu, on n'arrivait pas à avoir un pivot capable de nous soulager un peu, même sur des longs ballons, peut-être déranger au moins la relance de Saliba ou les montées d'Upamecano. On n'avait personne pour faire ça. Après, on se trompe tactiquement, ça c'est une autre histoire. Mais avec un Saibari, peut-être qu'on aurait peut-être pu déranger les axios. On ne verrait pas un Saliba aussi haut, on ne verrait pas un Upamecano, mais avec Dessy, on refait le monde. Mais justement, Saibari, il nous a manqué énormément et on l'a senti dans le jeu. Et dès qu'il n'était plus là, c'était plus pareil. Déjà, on avait du mal niveau banc d'assurer la même chose et avoir la même qualité. Là, tu étais obligé de commencer avec tes joueurs qui sont normalement tes jokers. Donc voilà, tu n'as plus personne sur le banc pour faire la différence, quasiment. Et on l'a senti d'entrée. Et voilà, donc pour moi, son apport, il était aussi moral. Ça a apporté de l'assurance aux joueurs d'avoir un joueur qui marche sur l'eau comme ça en compétition, qui réussit tout ce qu'il tente. Donc ça fait ses coéquipiers en confiance. Maintenant, je pense que l'équipe nationale, tout le monde fait sa Coupe du Monde. Il n'y a pas quelqu'un qui passe à côté de sa Coupe du Monde plus que ça. Mais tout simplement, tout le monde est passé à côté du match contre la France. Donc autant tout le monde méritait les éloges tout le temps, autant tout le monde a mérité les critiques après contre la France, qui étaient entièrement justifiées et que le coach a compris et qu'il a assumé lui aussi sa responsabilité, ses envies de changement qui n'ont pas forcément marché.
Saïbari qui a réussi effectivement sa Coupe du Monde avec ses 3 buts et qui depuis en plus a été recruté par le Bayern Munich. Donc on a hâte de voir aussi la suite de sa carrière en Allemagne dans le club champion d'Allemagne en titre. Dans quelques instants, on va continuer de parler évidemment du football marocain, mais aussi de vous, Rita et Ayoub. Vous nous direz tout sur ce que vous faites. Créateur de contenu, ça veut dire quoi? Quel est votre quotidien? Quel est votre rapport au football? Et puis on parlera également de la nouvelle de la journée, bien évidemment, parce que Zinedine Zidane est le sélectionneur de l'équipe de France. Ça faisait des années qu'il attendait ça, près de 5 ans. Et bien, ça y est, il succède à Didier Deschamps. Il a été intronisé aujourd'hui par la Fédération française de football. À tout de suite sur RMC.